Et on va prier pour que le Seigneur puisse nous aider dans le temps qui nous reste à laisser la parole de Dieu encore nous parler ce matin. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu as donné ton esprit qui a suscité cette joie de t'appartenir en nous, Seigneur, qui crie « Abba, Père, nous pouvons nous adresser à toi comme un papa qui prend soin de nous. » Mais Seigneur aussi, tu nous as laissé ta parole qui est la vérité. Et donne-nous de la laisser nous parler ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors dimanche dernier, Michel a parlé de repentance. Ce matin, on en a reparlé au moment de la Sainte-Cène et on va certainement continuer à en parler parce que c'est un point important. Mais en plus, avec Michel, on s'est aperçu que souvent les chrétiens ne mesurent pas réellement ce que veut dire ce mot repentance. Et c'est important peut-être d'approfondir un petit peu ce matin avec vous. En tout cas, je ne pense pas pouvoir terminer. Mais en tout cas, vous donner les grandes lignes, revenir peut-être dessus pour bien comprendre le mot repentance. Alors vous avez deux mots que j'ai écrits ici. Je ne sais pas si dans le fond c'est suffisamment grand, c'est marqué métanoïa et épistrephein. Donc c'est deux mots grecs. Vous savez que la Bible, le Nouveau Testament est écrit en grec et c'est important de revenir sur l'original puisque c'est lui qui est inspiré. Et si le Saint-Esprit a donné ces mots-là à ceux qui ont écrit l'écriture, c'est qu'au moment où ils ont écrit, c'est à ce moment-là qu'il faut revenir pour bien comprendre les mots. Quel est le mot français qui est traduit dans vos Bibles en face du mot métanoïa? Tu vois là-bas? Le mot métanoïa qui est en grec dans les Bibles grecques, Bible originale. Quel est ce mot? Il y a au moins une quinzaine de fois que vous le trouvez dans le Nouveau Testament. Alors j'écoute. Repentance, oui. Alors, je dis, attendez, le mot, qu'on soit clair, métanoïa, c'est quoi? Repentance et conversion aussi? Non, donc repentance, oui, donc on reviendra là-dessus, oui. Repentance, non mais je suis très concret, dans vos Bibles, parce que dans chaque Bible c'est différent, c'est pour ça que je dis, dans vos Bibles, qu'est-ce qui est traduit? Alors peut-être vous n'avez pas toutes les références, mais acte 2, par exemple, ce que Yves a cité, dans vos Bibles c'est repentance, repentez-vous, c'est ça? Mais il y a d'autres Bibles, parce que les Bibles nouvelles, on ne traduit plus repentance, c'est pour ça que vous voyez, je vais vous montrer ce matin que le mot repentance, c'est une façon de traduire, mais le vrai signification, c'est métanoïa. Et actuellement, dans les Bibles nouvelles, on ne traduit plus repentance. Donc, si vous avez des Bibles en semeur, ou des Bibles français courant, des Bibles français, voilà, quels sont les mots qui sont utilisés? Oui, changer, oui. Tout à fait. C'est changer. C'est plus repentance, c'est changer. Changer de mentalité, changer de vie, changer, etc. Hein, bon, je vous laisse chercher dans vos Bibles, hein, si vous avez d'autres Bibles chez vous, mais vous verrez que c'est plus ce mot-là, parce que c'est intentionnel. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est intentionnel. Que métanoïa, en grec, le grec ne change pas, hein, ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une valeur sûre, hein, la Bible qui est écrite en grec, elle ne change pas. Mais nos Bibles à nous, elles changent, parce que les mots changent aussi, enfin, de signification. Le deuxième mot, épistrephein, il se traduit dans vos Bibles par quoi? C'est conversion. C'est conversion. C'est le mot conversion qui est épistrephein. Et conversion, ça veut dire demi-tour, ok? Demi-tour. Voilà, et ces deux mots sont souvent utilisés l'un avec l'autre. Repentez-vous et convertissez-vous. Repentance, conversion, ok? Métanoïa, épistrephein, ces deux mots qui sont utilisés par les auteurs de la Bible de manière simultanée. On va voir un peu tout ça, à quoi ça consiste. Alors, je reviens sur le message de Michel. Pour ceux qui veulent l'écouter, vous avez toujours le site web où normalement tout est enregistré, c'est le cas aussi ce matin. Voilà, et donc vous pouvez aller sur le site pour avoir le message de Michel qui a parlé de métanoïa, au sens de changer de mentalité, au travers de plusieurs personnages. Alors quels sont ces personnages qu'il a pris ? Judas. Ensuite, alors dans le même esprit que Judas, donc repentance au sens négatif, c'est-à-dire qu'ils se sont pas vraiment repentis, mais donc Saül et les pharisiens. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont fait semblant, en tout cas Judas a fait semblant de se repentir, en fait il a regretté ce qu'il a fait. C'est pas de la repentance, c'est un regret. Voilà, donc elle a insisté là-dessus, je ne vais pas reprendre son message, vous l'écouterez. Et la repentance au sens plus positif, elle a pris d'autres personnages, trois personnages différents qui sont David, Job et le fils prodigue. Voilà, c'est bien, vous avez bien suivi. Donc ce sont des personnages qui n'ont pas regretté ce qu'ils ont fait, ils se sont repentis, ils ont vraiment rentré dans la métanoïa. Ils ont regretté profondément ce qu'ils ont fait, profondément, et se sont tournés vers Dieu. Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens dans ma vie pastorale qui, aux yeux des chrétiens, ils ont dit « Ah, il s'est repenti ». Et moi, je savais qu'ils ne s'étaient pas repentis. Simplement parce qu'ils étaient tristes d'avoir été pris la main dans le sac. Vous voyez ? C'est ce que j'appelle être triste. Faites attention, hein, quand il y a des gens qui se repentent devant vous, si c'est pas parce que ils sont pas contents d'avoir été pris, donc en fait ils font semblant de se repentir. Ça c'est pas une vraie repentance, hein. C'est une fausse repentance. Et ceux qui sont vraiment repentants, c'est que ils regrettent vraiment devant Dieu. Vous sentez vraiment la tristesse selon Dieu. Mais bon, ça c'est un autre message que j'ai pas prévu de donner aujourd'hui. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est à partir d'autres exemples, je vais, pas aujourd'hui non plus parce que j'ai pas le temps, mais vous présenter deux autres exemples, l'exemple de Daniel et l'exemple de Jésus, qui se sont repentis. Alors vous allez dire, ah, Jésus s'est repenti. Oui, au sens de métanoïa, vous allez voir que c'est ce sens qui va prédominer dans l'attitude de Jésus. Ces exemples nouveaux que je vais prendre tout à l'heure, mais je vais d'abord expliquer comment je vais y arriver. C'est une aspiration à se tourner vers Dieu en permanence. C'est une attitude à toujours être tourné vers Dieu. Et on n'a pas cette compréhension avec le mot repentance en français. Voyez-vous ? Et je vais vous expliquer aussi pourquoi on n'a pas cette compréhension. Par contre, si vous étiez un grand spécialiste du grec, vous le comprendriez tout seul. Mais comme moi non plus, j'ai pas fait d'école de grec, je suis comme vous à l'école pour apprendre. Donc c'est surtout un problème lié au mot repentance que nous avons et que nous comprenons pas bien la parole parce que métanoïa ne veut pas dire l'acception de repentance. On remarque que, pour certains chrétiens, comme je le disais tout à l'heure, repentance, c'est un mot un peu magique. C'est-à-dire, c'est une action magique. Je ne parle pas de l'aspect négatif, comme je l'ai cité, mais des gens pensent que se repentir, c'est se repentir des péchés, des pardons à Dieu, repentir des péchés, et faire demi-tour, et partir dans l'autre sens, et voilà, c'est fait. Comme si c'était magique. Or, c'est pas ça. La vie chrétienne n'est pas magique. C'est vrai que quand on demande pardon à Dieu pour ses péchés, ils sont pardonnés. Ça peut être magique. Mais notre attitude, nous on reste pécheurs. Il y a ici des saints qui ne sont plus pécheurs, qui ne pêchent plus jamais. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème à résoudre là. Et c'est le mot métanoïa qui va nous aider à le comprendre. Que la repentance, c'est pas la métanoïa, c'est pas ok, je demande pardon, j'ai fait un péché, et puis je fais demi-tour, je vais dans l'autre sens, et c'est terminé. Et j'entends des chrétiens qui me disent ça. Je dis, oh là là, là il est en danger. Il est en danger. Surtout si c'est parfois un péché qui est enraciné en nous. Demander pardon, spirituellement, il n'y a pas de problème. Le sang de Jésus efface. Mais nous, notre attitude, regardez les drogués, au début, David Wilkerson a aidé beaucoup de drogués à être libérés, et très très vite il a vu qu'il devait faire des centres de réhabilitation. Parce que ce n'était pas si magique que ça. Même si magiquement ils étaient libérés de la drogue, ils n'étaient pas encore prêts à repartir dans la société de manière totalement libre, hein, Isabelle. Je te rappelle, on était ensemble à Paris, là, avec Teen Challenge. Et c'est vrai pour tout péché. Pour tout péché. Et c'est pour ça qu'il faut la métanoïa, qui n'est pas simplement magiquement je demande pardon et c'est terminé avec ce péché-là. C'est reparti, comme on dit, comme en 14. Repentance. Alors, il y a un autre problème, c'est que parfois, on veut faire une traduction littérale, ce qu'on appelle l'étymologie, là d'où vient le mot. Et là aussi, c'est un problème. Alors, je vous donne le mot repentance tel qu'il est traduit dans le petit Robert. Alors, je vais pas regarder le petit Larousse, mais vous savez, c'est notre dictionnaire français. Hein. Et voilà ce que le dictionnaire français dit sur repentance. Hein. Donc, je ne parle pas de métanoïa, je parle de notre mot à nous, français. Hein, tel que nous, français, on est supposé, par l'Académie française, être compris. Alors, je vous lis ce qui est marqué. Souvenir douloureux, regret de ses fautes et de ses péchés, la repentance de ses fautes. Donc, qu'est-ce que vous et moi, on comprend de cette définition et qu'est-ce que chaque Français est supposé comprendre, puisque c'est le canon de notre langue, c'est regret. Vous êtes d'accord? Au regret, quand on dit regret, c'est un verbe qui fait penser à quoi, Isabelle? Regret. Un verbe d'action qui fait penser à quoi? Au passé ou à l'avenir? Hein, je ne vous le fais pas dire. C'est bien clair. Bon, donc je n'interprète pas. Vous voyez? Or, métanoïa, c'est plus vers l'avenir. Vous voyez? Donc il y a déjà un problème de direction. Regret de ses fautes, ça veut dire penser au passé, au péché. Vous voyez? Donc vous voyez déjà dans le mot que nous, on comprend, c'est pas du tout métanoïa qui est écrit dans la Bible, c'est celui-là. Vous voyez où je veux en venir? Donc il faut être libéré hein, de compréhension habituelle pour être renouvelé dans l'intelligence par la vérité de la parole. Voilà le petit Robert. Donc c'est un mot qui tourne vers le passé. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas grave, puisque derrière la conversion, donc du passé, on va vers l'avenir et on va vers épistréphène. Ok. Mais vous allez voir que dans beaucoup de passages, il n'est pas du tout question du passé. Acte 20, par exemple, je prends juste un exemple, mais je reviendrai plus tard. Acte 20, juste pour vous montrer ce que je vais vous dire sur un plan très pratique. Donc acte 20, verset 21, voilà ce que dit Pierre, je crois, si mes souvenirs sont exacts. 20, 21... bon, je lis le verset. Ah non, c'était Étienne, je crois. Verset 20. Sans rien dissimuler, je vous annonçais, je vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui était, vous était utile en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Là, c'est le mot métanoïa en grec. Hein. Mais est-ce que vous repentez vis-à-vis de Dieu? Qu'on se repente de ses fautes, oui. Mais est-ce que vous voulez vous repentir de suivre Dieu? Est-ce que vous voulez regretter de suivre Dieu? Non. C'est ça qui est marqué. Quand vous mettez repentance avec uniquement l'acceptation de l'idée du passé, regretter ses péchés, donc le petit Larousse, c'est ça que ça veut dire. Donc quelque part dans votre tête, vous faites une petite bascule, là. Vous dites, ben non, repentir de Dieu, c'est pas possible. Donc vous dites non. Mais quelque part, vous voyez, ça crée une confusion dans votre tête, parce que vous êtes obligé de rétablir une compréhension qui en fait n'est pas celle de base. Donc vous tordez le mot repentance pour le dire, mais non, on ne se repent pas de Dieu. En plus, il y a marqué la foi. Hein. Il y a marqué que nous nous repentions, la repentance envers Dieu et la foi. On ne se repent pas de la foi. Vous repentez de la foi? Ah ben, vous ne regrettez pas la foi, c'est par la foi. Voyez-vous? Donc là, c'est important. Et il y a beaucoup de passages comme ça où c'est le mot métanoïa qui. C'est pour ça que les Bibles françaises ne traduisent plus repentance. C'est à cause de ça, parce que ils se sont bien aperçus que traduire métanoïa par repentance, ça tord ça empêche de bien comprendre les versets. Ok ? Vous voyez où ce que je veux mettre en évidence. Alors, il y a deux obstacles du langage. C'est du langage. Deux obstacles. Le premier, c'est le langage de la traduction. Donc, traduire ça. Le deuxième obstacle, c'est le poids culturel, de la culture. Notre culture française n'est pas la même que la culture asiatique. Jérôme peut en parler. Quand il a épousé Yuno, il a découvert une autre culture. Okay, bon, on le sait, mais là, il s'en est aperçu concrètement. Bon, et culture africaine, culture. Bon, en fait, toutes les cultures sont bonnes et mauvaises à la fois, dans la mesure où toutes les cultures sont un mélange entre le bien et le mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que l'homme, il mange à l'arbre de la connaissance. Depuis Adam et Ève, nous mangeons tous à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que le Seigneur a prévu qu'on mange à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Il n'y a que de l'arbre de la vie qui a le bien. Il n'y a pas de mal, l'arbre de la vie. C'est l'arbre de Jésus. C'est Jésus. Et toutes les cultures ont un mélange de bien et de mal. Donc on est obligé de faire le tri. Mais on n'est plus capable de faire le tri à un moment donné parce qu'on est imprégné d'une certaine culture. Et en plus, la culture amène une pression. Moi, par exemple, je suis né dans une culture en Alsace, c'est à l'est de la France, pour ceux qui ne sauraient pas, qui est très imprégnée de culture allemande, autrichienne, suédoise, enfin c'est un lieu de passage. Bon. Et moi, je ne pouvais pas supporter, quand j'étais jeune, vous savez, les jeunes, j'aime beaucoup les jeunes, parce qu'ils sont prêts à mettre les choses en cause. Mettre les choses en cause, il faut savoir mettre les choses en cause, sans révolutionner tout. Et je pouvais pas supporter de cette rigidité qu'il y avait, de cette culture qui se répétait, et moi je voulais vivre autre chose. Et puis moi je refaisais le monde avec mes copains, des heures on parlait, tout ça, on va faire ça. Puis tous ceux qui étaient établis, c'est beaucoup plus fort que maintenant, établis dans des positions qui bloquaient tout, vous savez, des bourgeois un peu qui faisaient marcher, bon, vous avez... Bien sûr, on faisait marcher les emplois. Mais c'était eux qui régissaient tout. Il n'y avait pas possible de changer quoi que ce soit. Vous voyez, ça c'est la culture. Et vous pouvez, il y a une pression. Et vous ne pouvez pas changer les choses. Et quand on est jeune, on veut changer les choses. Okay, vous étiez comme ça, vous? Ben oui, c'est normal, c'est la vie. Et donc j'ai dit, non, je ne reste pas ici. Je vais à Paris. Et voilà. Et ici, c'est plus libre et tout ça. C'est plus facile. Mais bon, il y a le côté... un peu trop de liberté, ça pose d'autres problèmes aussi. Mais ceci étant, la culture est un poids important pour notre compréhension des choses. Je reviendrai un peu plus tard sur le fait que Luther, il y en a peut-être qui ne le savent pas, Luther, celui qui a fait la réforme protestante, que Luther était anti-juif, il était raciste. Peut-être vous ne le savez pas, mais vous voyez... Faut attention, on a des fois une image d'homme de Dieu, tout ça, bon, mais parce qu'il était influencé par sa culture. Dans chaque culture, il y a des poids, même des hommes de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit peuvent faire des grosses bêtises parce qu'il y a le poids de la culture. Alors je vais revenir sur le mot métanoïa. Donc je quitte le mot repentance français pour revenir à métanoïa, qui a été utilisé par les auteurs inspirés. Le mot métanoïa ne signifie pas repentance. Il faut d'abord préciser que lorsque nous utilisons le mot repentance, qui est défini dans la théologie protestante classique comme un aspect négatif de la conversion. Voyez-vous, la conversion, c'est l'aspect positif. Je me tourne de l'autre côté, je fais demi-tour. Donc ça, ce serait l'aspect positif. Et l'aspect négatif qui est de se repentir des péchés. Eh bien, c'est pas ça. Le repentant, c'est le fait de se détourner du mal ou des idoles, tandis que la foi se tourne vers Dieu. Paul évoque tour à tour ces deux mouvements qui ensemble constituent la conversion. Lorsqu'il écrit par exemple aux chrétiens de Thessalonique, vous vous êtes détournés des idoles, c'est 1 Thessaloniciens 1,9, donc c'est la repentance, pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai, ce qui correspond à la foi. Donc on a ces deux mouvements, se détourner des idoles pour se tourner vers la foi. Alors fréquemment, le mot métanoïa est utilisé, vous l'avez dans certaines de vos traductions, comme changement de mentalité. Et c'est ce que Michel a essentiellement utilisé la semaine dernière au niveau des personnages, changement de mentalité. Et là, on se base sur l'étymologie. Vous savez ce que c'est une étymologie d'un mot? C'est l'origine du mot. À un moment donné, l'avion, vous savez, le mot avion n'existait pas. Tant qu'on ne l'a pas inventé. Et donc on a dû inventer un mot, avion. Ouais. Donc c'est venu vers un objet volant, etc. Bon, je ne suis pas linguiste, donc je ne vais pas vous raconter comment avion... Mais ça, c'est le travail de nos académiciens. Il faut qu'ils inventent des mots qui correspondent à des usages qu'on utilise. Simplement pour dire qu'il faut faire attention de systématiser en disant « Ah, je vais à l'étymologie du mot, donc c'est vrai ». Non. Prenez le mot enthousiaste. Qu'est-ce que ça veut dire, Philippe, enthousiaste? Ouh, mais t'as fait de la linguistique, là? Non? Oh là là. Il est fort. Quand je dis enthousiasme, alors je suis sûr que vous allez peut-être tous aussi loin que Philippe, là, c'est super. Vous savez ce que c'est étymologiquement, ça veut dire quand le mot a été créé, c'est possédé par un dieu. Mais il y a bien le mot dieu dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous dites, quand Ruth tu dis, t'es enthousiaste, tu penses que tu es possédé par un dieu? Non, pas du tout. Mais ça c'est l'étymologie. L'étymologie de ce mot-là est venue à ce moment-là. Donc il faut faire attention de dire, moi je prends l'étymologie et là c'est bon, je sais ce que ça veut dire. Non. Nice, par exemple, en anglais. Nice, ça veut dire quoi, nice? Joli, joli. Quelle est l'étymologie du mot nice? Ça vient de latin. Ça vient du latin. Ah oui, il faut connaître le latin. Moi non plus, je ne connais pas le latin. Mais voilà ce qu'il est dit. Le mot latin, nice, c'est necius, qui a le sens d'ignorant. Vous voyez? Necius, nice en anglais. Ça veut dire ignorant. Vous n'allez jamais dire que nice, c'est ignorant. Vous voyez, attention. Attention, il n'y a pas... Pardon? Naïf. Oui. Oh, l'étymologie, bien sûr, elle est toujours présente. Hein, voilà, c'est sûr. Mais dans le langage courant, nice, ça veut dire gentil, etc., sympathique, mais pas du tout ignorant. Vous voyez, donc attention. Métanoïa... Bien sûr, ces changements de mentalité l'étymologie, etc. Mais ça veut dire plus. Ça veut dire plus. Et je vais en arriver à ce que ça veut dire véritablement. Le mot métanoïa indique un changement de comportement, de mentalité déjà. Donc changer de mentalité, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Mentalité implique un changement de comportement. Indique un changement d'attitude, indique un changement d'être, être différemment, et dans la manière d'être. Voyez-vous, donc ça va plus loin. Vous voyez la différence entre simplement se repentir des fautes, donc ça c'est complètement oublié, bien que il faut après le mot métanoïa mettre autre chose pour comprendre le mot repentance tel qu'il est dit. Mais ça veut dire un changement complet de la personne tourné vers le bien, tourné vers Dieu. Dans Actes 20-21 que nous avons lu tout à l'heure, donc la repentance en proclamant juif, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien ça veut dire que c'est un mouvement positif. Voyez-vous, c'est pas du tout un mouvement vers le passé, puisque là on a les deux mouvements, on est ici et regarde le passé, notre péché, on fait demi-tour et on regarde vers Dieu, vers le bien. Donc il faut faire demi-tour. Donc c'est ce mot qui est utilisé, et métanoé sur le passé. là, dans ce passage 20-21, ça ne veut pas du tout dire vers le passé, veut dire toujours tourner vers Dieu, tourner vers la foi. Donc c'est toujours dans le sens positif et pas dans le sens négatif. Produire des œuvres dignes de la repentance. Ça veut dire toujours tourner, on ne va pas produire des œuvres du péché, on va produire des œuvres de Dieu, des œuvres qui sont sur le bien. Voyez-vous ? Donc voyez que métanoïa, c'est quelque chose de très positif. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, nous avons encore le mot repentance, enfin métanoïa, qui est utilisé, et qui est utilisé de manière très positive, et non pas vers le passé. 2 Timothée 2, 25, il est écrit, « Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de soumettre à la volonté. » Et vous, la vérité, elle est avec Dieu. Donc pour connaître la vérité, il faut la parole de Dieu, il faut vraiment être dans la vérité. Donc c'est quelque chose de bien. C'est pas, la vérité n'est jamais négative. Okay ? Donc c'est rechercher la vérité, rechercher Dieu, etc. Donc métanoïa, c'est tourner vers le futur, vers le bien. Dans Apocalypse, au chapitre 16, verset 19, il est dit que par l'absence des hommes, l'absence chez les hommes de ce métanoïa, de rendre gloire à Dieu. Nous ne rendons pas gloire à Dieu avec nos péchés. Okay ? Donc l'absence de Dieu, l'absence de métanoïa, c'est qu'on ne donne pas gloire à Dieu. Pour donner gloire à Dieu, il faut la métanoïa. Donc c'est tourner vers le positif. Dans la lettre à Éphèse, Apocalypse chapitre 3 verset 19, le mot métanoïa est utilisé et il dit ce qui montre qu'il faut abandonner le mal et se positionner pour changer d'attitude et s'efforcer d'obéir à Dieu. Voyez-vous ? L'obéissance à Dieu est dans ce sens-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se repentir d'un péché particulier, mais il faut toujours se tourner vers Dieu pour lui obéir, chercher à lui obéir. Et il n'est pas parlé de désobéissance, il parlait d'obéissance. Quand le mot repentance est utilisé, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, un mot français, c'est-à-dire se repentir des péchés, il y a quelque chose qui est rajouté. C'est toujours par rapport à quelque chose. Donc métanoïa par rapport à quelque chose. Par exemple, il y a des passages où il est dit il faut se repentir d'une pensée mauvaise. Donc le péché est cité à chaque fois. Se repentir de quoi ? Parce qu'il y a des chrétiens qui se repentent. Bon, se repentent. Et il y a un livre qui est bien écrit là-dessus, sur David Pawson, qui parle de chrétiens qui sont nés par le siège, par exemple. Bon, ils sont pas nés normalement, quoi. Et tous les chrétiens qui naissent par le siège, toute leur vie chrétienne, ça va pas. Ça va pas parce qu'ils ont des séquelles, quoi. Ils sont pas nés correctement. Et ils disent ça parce qu'ils se sont pas repentis correctement. Et il y a un autre livre, je ne sais pas de qui dit que plus vous vous repentez de péchés précis, hein, A, B, C, D, E, F, plus vous repentez dans les péchés précis, plus votre repentance est profonde. C'est les superficiels. Vous allez dire, Seigneur, je me repens parce que je suis un pécheur. Ben, ok, c'est une repentance. Mais ça ne fait pas de vous un chrétien profond. Hein. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est quand vous pleurez sur vos péchés. Tous les réveils, lisez les livres de réveil, sont toujours basés sur la conviction d'un péché tellement profond que les gens se voyaient aller en enfer. Et si vous n'avez pas eu une repentance de cet ordre-là, priez le Seigneur de grâce, priez le Seigneur pour que vous puissiez pleurer sur vos péchés. Parce que ça vous fait de vous un chrétien superficiel et vous ne pouvez pas entrer dans les profondeurs de Dieu. Vous ne pouvez pas. Je me rappelle toujours un pasteur, John White, qui disait, c'est un psychiatre, un homme extraordinaire, Colombie-Britannique, il disait, il a été vraiment élevé. Il a montré le mécanisme de la conscience. Et Chuck Colson, par exemple, qui était avec Nixon, il écrit un livre qui explique dans prison, après le Watergate, sa conscience a commencé à lui parler et il s'est converti parce qu'il y a eu un ébranlement de sa conscience. Comment marche la conscience? John White dit, voilà, quand j'étais petit, mes parents étaient chrétiens, tout ça, je pouvais pas voir au cinéma à côté, et puis je pouvais même pas voir Laurel et Hardy, quoi. Parce que non, le cinéma est... Et quand il est allé, un samedi soir, avoir regardé Laurel et Hardy, mais sa conscience l'a tellement parlé que toute la semaine il était troublé, qu'il a fait ça, c'est un péché, tout ça. Ouais. Il a mis des semaines jusqu'à ce que sa conscience accepte l'idée qu'il a pu voir le Laurel et Hardy. C'est pour montrer, la conscience est quelque chose de précieux. Bien sûr, là, c'est une hyper-conscience, hyper-sensible. Hein. Donc, il y a les hyper-sensibles, mais il y a ceux qui sont marqués au fer rouge, dit la parole de Dieu. Et ceux-là, c'est des gens, des chrétiens qui peuvent détruire même leur propre église. Donc, la conscience, c'est quelque chose qui va en profondeur. Quand vous avez conscience de votre péché profondément, que là, vraiment, vous avez offensé Dieu, même dans les petites choses, c'est là que votre vie chrétienne va s'asseoir sur des solides fondements. Donc le mot métanoïa, il est toujours accompagné de choses précises. Par exemple, les œuvres mauvaises, les meurtres, les sortilèges, l'inconduite, les vols, les pensées mauvaises, etc. Et vous, là, c'est vraiment la repentance au sens de se repentir des péchés. C'est pour ça qu'avec les baptisés, on essaye de faire cette étape de la liberté pour entrer plus profondément dans les choses, mais on ne peut pas tout faire, donc continuez chez vous vraiment à vous laisser, à ne pas faire de l'introspection, mais à laisser le Seigneur vous convaincre ce qui vous sépare de lui et qui le blesse. Donc les termes qu'on étudie là actuellement, repentance, conversion, sont un changement de manière d'être et un changement de vie. J'aille un peu vite. Vous avez l'histoire de Zachée, des collecteurs d'impôts, etc. Tout ça, ça montre l'aspect de la repentance authentique qui est une métanoïa liée à des péchés précis dont ils se repentent, hein, que ce soit Zachée ou le collecteur d'impôts. Je pense que actuellement, les Bibles modernes utilisent le mot changer. Au lieu de repentance, ils disent par changer. Et bien sûr, c'est un peu court comme mot, mais c'est déjà beaucoup mieux que repentance. Et le mot changer, vous avez vu, c'est un peu dans l'idée de dire à quelqu'un, eh bien, change ta manière de vivre. Vous voyez, change ta manière de vivre, quand vous donnez une petite tape sur l'épaule, change ta manière de vivre. Ça va plus loin. Ça veut dire, oui, change, mais change vraiment. Hein, change aussi ta manière d'être, manière de faire. Vous voyez, ça va pas, quoi. Tel que tu vis, ça ne va pas. Donc vous remettez en question un peu son être, sa manière d'être. Et c'est ça plus qui traduit le mot métanoïa. Change ta manière d'être. Change ta manière de vivre. Ça ne va pas. Change. Et fais quelque chose pour ne pas rester dans cet état. C'est plutôt ça qui traduit bien le mot métanoïa. Alors, je vais terminer juste en introduisant les deux prochains... personnage que je vais développer sur le thème de métanoïa changé, c'est Daniel et Jésus. Pourquoi? Parce que Daniel, il n'a pas fait de gros péché, enfin on n'a pas fait de péché du tout dans ce qui est relaté. En général, la Bible ne cache pas les péchés hein, des gens. Il est très très cru, et David, même l'homme selon le cœur de Dieu qui a péché avec Bathsheba, Daniel n'a pas péché. C'était un homme qui était toujours dans la métanoïa. Dans la métanoïa, tel que je viens de le dire, de manière positive. C'est-à-dire qu'il était toujours orienté à vouloir faire obéir à Dieu. Il était toujours orienté, dans toute sa vie, depuis tout jeune jusqu'à la fin, orienté à obéir à Dieu, orienté à chercher à plaire à Dieu, orienté à faire la volonté de Dieu, orienté à servir Dieu, orienté à accepter les postes qui lui sont offerts, mais sans les réclamer, etc. Vous voyez, cette orientation, ce changement permanent, qui est un peu le semper reformanda de la réforme, changé en permanence. Il était dans cette optique-là. Jésus, est-ce qu'il s'est repenti de ses péchés? Non, il n'avait pas de péché. Il était dans la métanoïa. Métanoïa, ça veut dire qu'il changeait en permanence les pensées qui lui venaient. Un jour, il a dit... à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Pierre lui a dit des paroles qu'il ne pouvait pas accepter. Et il a changé, il aurait pu les prendre, parce que l'idée que Satan derrière, c'est que Jésus prenne ses paroles. Oh ben non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas mourir, quoi. Voyez-vous, tout ce que Satan voulait, c'est empêcher que Jésus meure. C'est tout. Mais Jésus, ce n'était pas sa destinée, ce n'était pas son plan. Ce n'était pas ce que le Père avait prévu pour nous. Il fallait qu'il meure, mais il fallait qu'il accepte. Or, Satan a tout fait pour l'empêcher d'accepter. Il utilisait Pierre. Immédiatement après ça, son témoignage, en disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant », immédiatement, Pierre, vous savez, son cœur parlait, c'était un homme formidablement impulsif et qui aimait Jésus. Il dit « Mais non, Jésus, ça ne t'arrivera pas ». Et Jésus immédiatement dit « Arrière de moi, Satan, arrière de moi, Satan ». Parce que, vous voyez, comme on l'a dit hier en réunion d'hommes, quand vous êtes en danger, il faut immédiatement fuir. Il ne faut pas discuter avec Satan. Jésus n'a jamais discuté avec un démon, jamais. Il a dit « Dehors, dehors ». Il faut, dès qu'un démon parle, ne discutez jamais avec lui. Vous serez perdant. Vous serez perdant. Il faut tout de suite mettre les barrières en disant « La volonté de Dieu, c'est que je sais, je connais mon plan. Et maintenant, c'est fini. » À Gethsémané, Jésus, il avait envie d'arrêter. C'était trop dur. Tous les péchés de l'humanité les portaient. Des grumeaux de sang. Est-ce qu'il y en a qui ont des grumeaux de sang dans leur... Le sang est sorti de sa tête. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, la sueur est devenue du sang. Tellement il agonisait. Il agonisait. Ce qu'il devait souffrir le péché de l'humanité. Lui qui n'avait rien, pas jamais fait sur le péché. Et il a dû dire à son père, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne, mais sinon, que ta volonté soit faite. Metanoïa. Il a changé à ce moment-là sa pensée pour l'orienter dans le sens de Dieu. Toujours dans le sens de son père, parce qu'il aimait son père. Il savait que son père était bon. Il savait que son père, il savait ce qu'il faisait. Et si lui, à un moment donné, il a douté de ce que le père faisait, il a dit « Non, père, je te fais confiance ». Vous voyez, cette relation intime avec le père, ça va jusque-là. Et ça, c'est la véritable métanoïa. C'est changer ses pensées en permanence, son attitude, son comportement, sa façon d'être, sa manière d'être. Amen. C'est ça. Et ça, ça produit des chrétiens qui sont des chrétiens forts, qui peuvent tenir devant l'adversité, qui peuvent tenir devant leur culture, qui peuvent tenir, et le Seigneur peut les utiliser. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de vous, je souhaite pour moi, pour chacun de nous, que nous soyons de ces témoignages. Alors il n'y a pas que Jésus et Daniel. Daniel a été un de ces héros de la foi qui nous ont montré la direction de la métanoïa. Mais je suis obligé d'arrêter là, et je vous montrerai le poids de la culture que nous avons, nous, actuellement, à vaincre, qui n'est pas facile, qui nous oblige à avoir une certaine pensée unique, comme on dit, une pensée où nous pensons tous pareil. Et comme je vous le disais, il faut jeter la pierre à personne. À personne. Luther, au XVIe siècle, il était raciste et anti-juif, mais parce que tout le monde était un peu comme ça à l'époque. C'est des raisons. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Et je crois que nous aussi, on a encore, même dans nos cultures, des choses qui ne vont pas avec la parole. Mais nous n'arrivons pas encore à nous extraire de cela, mais nous pouvons faire des progrès. De progrès en progrès, nous pouvons marcher avec le Seigneur. Amen. Et je souhaite que chacun de nous puissions faire des progrès et que nous ne voyons pas métanoïa comme simplement repentant du péché, quelque chose du passé, mais quelque chose vers l'avenir. Je veux suivre le Seigneur, je veux suivre Jésus, je veux que mes pensées sans arrêt puissent être renouvelées, puisse être transformé, que mon être, que mon comportement, que mon attitude soit changée, et que nous soyons des chrétiens vainqueurs. Amen. Il y en a qui veulent être des chrétiens vainqueurs. Alors, élevez simplement vos mains vers le Seigneur et nous allons prier. Seigneur, aide-moi. Aide chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, entrer dans, à vivre cette métanoïa qui n'est pas négatif. Mais Seigneur, même si nous n'avons pas péché, nous avons besoin de changer de pensée, de changer de en permanence que nos pensées soient renouvelées par toi, Seigneur, afin que nous puissions t'obéir. Et que cette obéissance ne soit pas simplement un plaisir pour nous d'obéir, mais que Seigneur, toi, tu te fasses plaisir et que tu puisses nous bénir en retour. retour, parce que nous sommes dans la victoire avec toi. Seigneur, merci. Et parce qu'en faisant cela, nous faisons péricliter la nature de l'ennemi, la puissance de l'ennemi en nous, Seigneur. Et nous résistons, et il fuira loin de nous, comme le dit la parole. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est là que Jacques nous exhorte, et Seigneur, nous voulons le faire pour être vainqueurs, et que chacun d'entre nous, dans cette salle, puissions être vainqueurs, Seigneur, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Merci, et pour ta gloire, Seigneur, nous te le demandons. Amen. Amen.